Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Je suis formidablement optimiste en vous sachant au travail dans les prochains jours avec le gouvernement. Alors vive les maires de France !
L'opération réconciliation d'Emmanuel Macron avec les maires de France. À 4 mois des municipales, 1h30 de discours devant leur congrès. Jean-Rémy Baudeau sur place nous dira si le pari est réussi.
Le président qui se prononce notamment contre l'interdiction des listes communautaires.
8 à 17 milliards d'euros, c'est le chiffre du jour et c'est ce qui manque pour équilibrer le régime des retraites. Conclusion d'un rapport d'experts, il va falloir travailler plus longtemps.
De quoi raviver un peu le débat d'ailleurs avant la mobilisation du 5 décembre.
Nous retournons ce soir en Haute-Garonne. L'enquête confirme que le passage d'un camion beaucoup trop lourd, plus de 50 tonnes, semble être la cause immédiate de l'effondrement du pont sur le Tarn.
Et refuser la maison de retraite parce que religieuse. La ville de Vesoul pointée du doigt pour avoir refusé, en effet, d'accueillir une sœur.
Et puis à quelques jours de la fin du Grenelle des violences faites aux femmes, une immersion ce soir. L'enquête du 18h au cœur de la prise en charge des auteurs condamnés.
C'est plein de petits conflits, plein de petites embrouilles et un gros mensonge de sa part à elle. Pour avoir la vérité, j'ai dû un peu la brusquer.
Un reportage et témoignage. Nous avons pu assister à un groupe de paroles.
Enfin, l'hommage du monde du cyclisme à Raymond Poulidor pour ses obsèques. C'était dans son village du Limousin.
Poulidor, sa force était d'être aimé, d'être formidablement aimé par tant de gens et ça s'est senti dans la cérémonie.
L'émotion du patron du Tour, Christian Prudhomme. La Bourse de Paris termine ce soir en repli de 0,35%. À 5 909 points.
La tendance météo, c'est avec vous Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Un temps beaucoup plus calme demain avec des brumes et des brouillards assez nombreux en début de journée. Le vent du sud souffle, ce qui devrait faire grimper les températures. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Il devait recoller les morceaux retissés des liens abîmés avec les maires. Emmanuel Macron vient d'achever un discours fleuve d'une heure et demie devant plusieurs milliers d'entre eux rassemblés à la porte de Versailles à Paris pour leur congrès annuel. Jean-Rémy Baudeau, vous avez donc suivi ce discours pour nous. Est-ce que le président a produit l'effet escompté ?
Eh bien Sébastien, c'était un long discours pendant lequel le président a expliqué longuement qu'il avait besoin des maires, qu'il n'avait pas été lui-même élu local, mais qu'il apprenait à chaque déplacement. « Je me sens à votre contact, maire de la commune France », a dit le chef de l'État. Voilà pour les courbettes. Sur le fond, il a surtout justifié ses décisions, celle notamment de supprimer la taxe d'habitation. Il a dit, d'une certaine manière, qu'il avait prévenu. Il a longuement demandé à être jugé sur les actes, sur le déploiement du très haut débit, l'ouverture des maisons France Service qui débute actuellement, les investissements dans les quartiers. Et sur un sujet qui agite actuellement l'actualité, à quelques mois des municipales, le président s'est prononcé contre l'interdiction des listes communautaires. Pour lui, la proposition de loi du sénateur Retailleau ne serait tout simplement pas efficace.
Ceux d'entre vous qui sont confrontés à ces phénomènes le savent. Ceux qui développent un projet communautariste, cet islam politique que j'évoquais, un projet de division de la nation en détournant une religion de ses fondements, très souvent se cachent, se dissimulent. C'est là toute la difficulté. Ce qui compte, c'est de faire tomber les masques de ceux qui combattent la devise inscrite sur les frontons des mairies, qu'ils convoitent. Et ce combat, je peux compter sur vous pour le mener.
Le président Macron qui promet d'ailleurs de nouvelles mesures contre le communautarisme dans les prochaines semaines. Mais à la sortie, les maires que j'ai pu rencontrer, ils n'ont pas montré un enthousiasme démesuré. La salle était polie, mais plutôt tiède. C'est trop technocratique, m'a dit un élu qui a quitté la salle avant la fin. C'est trop long pour faire passer des messages, conclut un autre.
Jean-Rémy Baudeau en direct de la porte de Versailles à Paris.
On va y revenir longuement avec les grandes voix à 18h30. On en vient au contexte social et à ce rapport choc sur la situation de notre système de retraite, Sébastien.
Un rapport qui tombe en pleine veillée d'armes des syndicats, contenu explosif. Le Conseil d'orientation des retraites estime qu'il manque 8 à 17 milliards d'euros pour assurer l'équilibre des comptes en 2025, comme le souhaite le gouvernement au moment où sa future réforme entrera en vigueur. Du coup, la préconisation est claire, il va falloir travailler plus longtemps. Voilà une idée qui remet une pièce dans la machine. Claudia Bertram, vous êtes à l'Assemblée juste avant une journée noire annoncée pour le 5 décembre.
Oui, l'opposition se divise sur l'âge du départ à la retraite qui fait son retour dans le débat. À droite, cette piste semble être privilégiée, comme l'explique la députée LR, Annie Genevard.
On voit bien que pour sauver les retraites en France, il faudra prendre des décisions. Nous considérons qu'on ne peut pas toucher au montant des pensions. Il faut absolument revoir la question du départ de l'âge à la retraite.
À gauche, on ne veut pas en entendre parler, comme le député insoumis Alexis Corbière.
Tous les arguments sont donnés aujourd'hui pour essayer de convaincre les Français que l'avenir passe par le fait de travailler plus longtemps. Je ne veux pas d'une société de travailleurs vieux, de travailleurs pauvres bien souvent, de cette précarité. Ce n'est pas ce modèle-là vers lequel il faut aller.
Le PC craint que le gouvernement utilise le rapport du COR et ses préconisations pour justifier le passage au régime universel. C'est ce que dénonce le député communiste Sébastien Jumel.
Il va se saisir de tout ce qui passe à portée de la main pour essayer de justifier sa mauvaise réforme.
Le rapport sera remis jeudi au Premier ministre, mais l'exécutif ne s'en est pas caché. Pour mettre en œuvre sa réforme, le système doit être à l'équilibre.
Claudia Bertram en ligne depuis l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui, à l'instant, vient d'approuver à une large majorité l'ensemble du projet de budget 2020.
Il est 18h05 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Et nous retournons ce soir en Haute-Garonne où l'enquête continue au lendemain de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn.
Le procureur confirme ce soir l'hypothèse que nous évoquions hier. Le passage d'un camion bien trop lourd semble être la cause apparente de l'accident. Un convoi dont le poids est estimé à plus de 50 tonnes, bien loin de la limite autorisée de 19 tonnes sur ce pont. Théo Manval, vous êtes sur place où des grues ont été installées. Il s'agit maintenant d'extraire de la rivière les différents véhicules.
Oui, et pour cela, une immense grue est à l'œuvre. Elle est arrivée en milieu d'après-midi. Et depuis 16h30, les plongeurs de la gendarmerie ont tenté d'arrimer les câbles à la voiture. La Clio blanche tombée dans l'eau lors de la chute du pont et dans laquelle, vous le savez, une lycéenne de 15 ans a perdu la vie. L'objectif, c'était de sortir cette voiture du Tarn d'ici ce soir. Pas sûr que ça fonctionne. Pour le camion, ça devrait prendre encore plusieurs jours là aussi. Et il faudrait aller vite, demande le maire de Mirepoix, Éric Auget, car une légère fuite de fioul a été détectée dans la rivière.
Il a été relevé une toute petite irisation, certainement liée au carburant des véhicules. Il faut que ça aille relativement vite parce qu'il y a les stations de pompage d'eau potable à Villemur et voilà, il faut que ça soit fait rapidement.
Station de pompage quelques kilomètres plus bas. Concernant l'enquête, le procureur de Toulouse vient de livrer les premiers éléments. Il confirme que le convoi sur le pont faisait plus de 50 tonnes. Ce surpoids est la cause apparente de l'accident, dit le procureur Alzéari, qui précise que le conducteur connaissait très bien les lieux, passait par là régulièrement avec des véhicules plus légers et semble donc s'être engagé par habitude sur le pont malgré les panneaux de signalisation et malgré les coups de klaxon et appels de phare de ses employés dans d'autres véhicules derrière lui juste avant la chute.
Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 en Haute-Garonne.
La ville de Vesoul en Haute-Saône accusée de quoi ? Eh bien de christianophobie, Sébastien.
Oui, et cela pour avoir refusé d'héberger une religieuse, une sœur, dans une maison de retraite de la commune. Arthur Mbaché, vous êtes sur place à Vesoul. Cette religieuse s'est vue refuser son inscription pour cause de tenue non conforme à la laïcité.
Absolument, la laïcité vue par les fonctionnaires municipaux vésuliens, ça donne sœur Marie-Dominique, d'accord, mais pas sa tenue de Clarisse. Une robe marron, un voile noir, un liseré blanc sur le front et, ajoute son amie de la paroisse Geneviève, un joli sourire.
Elle était acceptée là, à condition qu'elle retire son voile, son habit de sœur, chose qu'elle n'a pas fait depuis ses vœux.
Depuis ses vœux, c'est-à-dire quand elle était jeune fille.
Eh bien, bien sûr. Ça a été quand même quelque chose de dur à encaisser. Parce qu'elle était vraiment loin de se douter qu'il lui arriverait une chose comme ça. Hein. Oh non, ça m'a vraiment chagrinée. J'ai dit, mais où va-t-on ? On ne respecte plus rien. Je ne comprends pas.
Alors Marie-Dominique vit pour l'instant dans un studio au centre de Vesoul. À la résidence qu'il a refusée cet après-midi, on m'a expliqué ceci hors micro. Qu'elle porte une petite croix discrète. Ok, mais toute la tenue de religieuse, non, c'est, je cite, une décision concertée avec la mairie. Voilà, ça c'était avant tout à l'heure le rétropédalage du maire. Qui fait pénitence, qui admet en tout cas que la neutralité religieuse, c'est pour les agents, pas les usagers des services publics. Et il s'engage, dit-il personnellement, à trouver une place, si elle en veut toujours une, à Sœur Marie-Dominique.
Le récit d'Arthur Mbaché sur place à Vesoul pour Europe 1.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, notre enquête à quelques jours de la fin de Grenelle. Immersion dans un groupe de parole qui encadre les auteurs condamnés pour violence conjugale.
Et puis le monde du cyclisme réuni pour rendre hommage à Raymond Poulidor. C'était ses obsèques ce matin dans son village du Limousin. Nous y étions.
Vous écoutez Europe 1, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Le Grenelle des violences faites aux femmes s'achèvera dans quelques jours et certains spécialistes alertent Sébastien sur un aspect pour le moins négligée.
Oui, les discussions se concentrent bien sûr sur la meilleure protection possible des victimes. Mais sur 60 propositions, une seule concerne la prise en charge des auteurs de ces violences. Nous avons choisi de nous arrêter ce soir sur cet aspect avec une immersion inédite. Bonsoir Salomé Legrand.
Bonsoir.
Du service police-justice d'Europe 1. Nous allons entendre, grâce à vous, la voix de ceux qui ont été les auteurs condamnés pour ce type de violence. Vous avez pu assister à un groupe de parole.
Oui, un jeudi soir dans les locaux du service d'insertion et probation de Créteil. 6 hommes, tous condamnés pour des violences à l'encontre de leur conjointe. Entre 29 et 53 ans, profils variés, fonctionnaires, livreurs, patron d'une société de transport, directeur de boutique, encadré par un psychologue animateur qui accueillait ce soir-là un nouveau dans le cercle. Vous allez l'entendre, la parole est très libre, très crue.
Qu'est-ce qui vous a malheureusement conduit ici ?
Je pense que j'ai été jugé à tort.
Ouais.
J'ai toujours été quelqu'un de très impulsif, mais jamais envers une femme, ce qui m'a amené à ici. C'est plein de petits conflits, plein de petites embrouilles et un gros mensonge de sa part à elle. Pour avoir la vérité, j'ai dû un peu la brusquer. Voilà. Elle a eu un jour d'ITT, je crois, c'était vraiment... Je l'ai juste repoussée violemment. Et c'est tout ce qui s'est passé. Et après, bah, j'ai plus eu de contact avec elle depuis.
Est-ce que ça suscite comme réflexion ?
C'est un peu similaire. Il n'y a pas eu d'ITT, t'as un truc déplacé, un peu dans le même esprit que toi, tu vois. Un truc que je lui mets autour du cou, je l'ai tiré vers moi. Pareil, j'ai les mêmes problèmes d'impulsivité, de violence que toi. Et pareil, j'étais viré de chez moi, quoi.
T'as des enfants ?
J'ai une petite fille comme toi.
C'est difficile de retourner chez ses parents.
Et ces hommes échangent sur leur vécu personnel durant une heure et demie, une fois toutes les deux semaines.
C'est obligatoire, Salomé ?
Alors ce groupe-là rassemble des volontaires, cela fait partie du suivi de leur peine. Certains sortaient de prison, d'autres sont en période de sursis. Ils y sont orientés quand le dialogue n'avance plus avec leurs conseillers d'insertion, qu'ils sont bloqués dans leur représentation.
Parce que c'est quoi en fait l'intérêt ?
Eh bien d'être confronté à d'autres histoires que la sienne pour pouvoir critiquer, regarder chez les autres les ressorts de la violence, en particulier les violences dans le couple, pour évoluer soi-même. Alain Legrand est le psychologue qui les encadre.
Combien de fois j'ai pu entendre bah, « toi, tu vas pas nous la faire. Si t'es là, c'est qu'il y a eu quelque chose. » Enfin bon, et en général, les gars, ils cèdent, quoi. Mais après, justement, on travaille sur ces aspects-là. Par exemple, j'ai fait la distinction entre peur et respect. C'est des petites touches de ce genre qui, petit à petit, va infléchir le regard. Ce qui compte, c'est qu'ils cheminent.
Et la prise en charge dure jusqu'à 2 ans. Au fil des semaines, certains se surprennent à être d'abord, par exemple, moins agressifs au volant, plus ouverts. Et puis, l'objectif principal, c'est de les faire travailler sur leur rapport à la femme.
Oui, et on entend dans leurs témoignages qu'il y a encore du travail à faire, tant ils minimisent beaucoup leurs actes. L'enquête du journal de 18h, signée Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Merci.
Merci à vous et un rendez-vous demain dans cette dernière ligne droite du Grenelle. La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, est l'invitée de la matinale d'Europe 1.
À l'étranger, le parquet suédois a annoncé aujourd'hui l'abandon des poursuites pour viol contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui était accusé par une femme de l'avoir agressé en Suède en 2010. Cela clôt 10 années de procédure, constat d'échec donc pour la justice suédoise, qui ne sera pas parvenue à faire comparaître Julian Assange, qui s'était réfugié à Londres.
Les sports avec une entrée en matière laborieuse pour les Bleus dans la toute nouvelle Coupe Davis.
Oui, on en parlait ici même hier soir de cette nouvelle formule décriée, nouvelle Coupe Davis à Madrid. On joue 2 simples et 1 double le même jour. La France a fini par remporter sa première rencontre contre le Japon, mais c'est la paire Herbert-Mahut qui a dû batailler en double et qui a gagné après une victoire de Tsonga en simple, mais une défaite de Gaël Monfils. Prochain rendez-vous jeudi face à la Serbie de Djokovic.
Et le monde du vélo qui était rassemblé ce matin, évidemment, pour rendre hommage à Raymond Poulidor.
Dans son village du Limousin, Saint-Léonard de Nobla, ce sont d'autres anciens champions, Bernard Hinault et Bernard Thévenet, qui ont porté le cercueil au son de ces accordéons et entouré de très nombreux anonymes. Reportage de Mathieu Bock.
Le son des cloches se mêle à la musique des accordéons au moment où le cercueil sort de l'église. Dehors, des centaines de personnes ont regardé la cérémonie dans le froid, des fans et des habitants venus saluer le champion une dernière fois.
Bah parce que moi je suis née ici et quand on était enfant, nous... Il n'y avait pas tant de distractions que ça. Et je me rappelle que le Tour de France, les après-midi, c'était sacré.
Ah ben moi, je le voyais tous les matins, à la maison de la presse. Oui. Et il descendait chercher son journal avec son vélo. Et... Non, on le croisait, mais tous les jours, pratiquement tous les jours.
Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, ressort de l'église encore bouleversé par la cérémonie.
Oui, évidemment, énormément d'émotion, parce que vraiment, Poulidor, sa force était d'être aimé, d'être formidablement aimé. par tant de gens, et ça s'est senti dans la cérémonie. Le moment le plus fort était sans doute lorsque Corinne, sa fille, a lu ce mot de Mathieu, l'un de ses petits-enfants, Mathieu Van Der Poel, qui a déjà un nom et un prénom, qui a dit tout l'amour qu'il avait pour son grand-père. Et ce grand-père, c'est un monsieur formidable, que le monde du vélo a perdu, mais pas seulement le monde du vélo, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui comptait.
Mais le Tour de France n'oubliera pas de sitôt Raymond Poulidor, puisque la grande boucle passera ici, dans son village, au mois de juillet prochain. Saint-Léonard de Noblat, Mathieu Bock, Europe 1.
Merci à vous Sébastien Krebs, on y reviendra évidemment avec d'autres reportages un peu plus tard dans votre 18h30 à 19h évidemment. Europe 1.